Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On reste aux États-Unis un petit peu. Quand Joe Biden a été élu président aux États-Unis, nos autorités politiques ont poussé un soupir de soulagement. À l'imprévisibilité et l'égoïsme de Donald Trump aurait succédé l'angélisme démocrate. L'illusion typique de nos élites dites progressistes a été vite dégonflée et l'on s'est soudainement rappelé que les démocrates protègent avant tout les emplois nationaux et font de la vertu écologique une de leurs marques de commerce. Au pays, c'est l'Alberta qui en subit les conséquences les plus néfastes. Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique, nous en parle. Jean-François, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe, ça va bien?
Oui, et vous?
Oui, ça va très bien.
Alors écoute, on vous écoute sur les questions d'énergie, de génie une fois par mois, les mardis à 12h35 à peu près. Là, bon, alors évidemment, grosse surprise, Joe Biden, bah, surprise ou non, on pensait que Joe Biden serait un ange, qu'il aimerait les Canadiens, etc. Puis on a été remis à notre juste place ou quoi?
Permettez-moi d'abord de ne pas être surpris. C'était une décision qui était prévisible, en fait. Vous avez raison de mentionner qu'il y a peut-être beaucoup de Québécois et de Canadiens qui voyaient la venue de Joe Biden comme une forme de délivrance. Hein? C'est-à-dire que, disons que la dernière présidence des États-Unis avait été décoiffante à plusieurs égards.
Oui.
Mais il en demeure pas moins que si on regarde ça, si vous voulez, rationnellement ou froidement, le changement d'administration aux États-Unis ne change pas le fait que pour les États-Unis, pour ses dirigeants, le Canada est un pays étranger. Alors donc, il est normal qu'un président américain fasse la promotion de son agenda politique et des intérêts, ou en tout cas les intérêts qu'il juge pertinents pour son pays, soient défendus avant les intérêts d'un autre pays. Alors, si on regarde un peu le discours de Joe Biden lors de sa campagne électorale, bien, il était très clair que pour lui, il visait les cibles de l'accord de Paris. Il voulait que les États-Unis réintègrent l'accord de Paris dont les États-Unis s'étaient distanciés sous la dernière présidence.
Ils ont été sortis carrément, non?
Oui, exactement. Donc, Donald Trump avait décidé de sortir les États-Unis de l'accord de Paris, ce qui n'a pas empêché les États-Unis quand même de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment par le remplacement de centrales d'électricité au charbon par des centrales d'électricité au gaz naturel, par exemple. C'est un pays quand même qui performe relativement bien en Occident en ce qui concerne la diminution de ses gaz à effet de serre. Mais Joe Biden était plus ambitieux, si vous voulez, que ça. Il réintégrera, il fera en sorte que les États-Unis réintégreront l'accord de Paris. Et ce faisant, il visera une carboneutralité pour 2050. Alors, si vous regardez un petit peu le portrait global, les objectifs qu'il se donne, pour vous donner une idée, là, il vise également d'avoir à ce que les États-Unis aient une production d'électricité qui soit sans émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. On parle donc d'un horizon de 14-15 ans. Pour vous donner une idée à quel point il s'agit d'un objectif quand même assez ambitieux, à l'heure actuelle, aux États-Unis, il y a 62,6% de la production d'électricité qui vient des combustibles fossiles.
Donc du charbon et du pétrole?
Gaz naturel, charbon, gaz naturel surtout.
D'accord.
Donc, vous avez une proportion ensuite de ça de environ 20% de nucléaire et 17-18% d'énergie renouvelable.
Donc, ce qui veut dire les fleuves, les rivières, comme Hydro-Québec?
Oui, l'éolien, le solaire, etc. Donc vous avez finalement... Donc, c'est dire que s'il y a 60 et quelques pourcents de votre production d'électricité qui doit, si vous voulez, devenir carboneutre d'ici 14 ou 15 ans, vous voyez à quel point ça peut être ambitieux. Les États-Unis, on parle de 350 millions de personnes qui consomment des industries, une industrie agricole, manufacturière, etc. Donc, il y a énormément, si vous voulez... il y a énormément à faire côté production d'électricité. Et si vous voulez, pour tout le reste de l'économie, donc tout ce qui a trait au transport, tout ce qui a trait à d'autres formes, si vous voulez, d'autres formes d'utilisation de l'énergie, eh bien, il y aura énormément à faire pour avoir une économie complètement carboneutre d'ici 2050. Donc, de ce point de vue-là, si on prend pour acquis que Joe Biden est sérieux dans l'atteinte de ces objectifs-là, eh bien, il n'est pas surprenant là, qu'il se soit opposé en quelque sorte au projet Keystone XL qui apparaît de ce point de vue-là comme étant contradictoire avec les objectifs qu'il poursuit.
Alors justement, je disais en introduction que le résultat de ça, c'est que la première victime, c'est l'Alberta, qui finalement est laissée à elle-même par rapport au fédéral. Elle a une défense bien, bien faible de la part de Trudeau et sa compagnie. Ce décret présidentiel qui met la hache dans le projet d'oléoduc Keystone XL, quelques mots sur ce projet-là et en quoi l'Alberta va me frapper de plein fouet.
Ben, voyez-vous, c'est ça qui est particulier, c'est qu'on dit que l'Alberta est perdante. Il est vrai qu'elle est perdante dans les circonstances, mais le Canada est perdant dans son ensemble. Et voyez-vous, c'est-à-dire que Justin Trudeau, il est le premier ministre du Canada. Alors ce qui est finalement délétère pour le Canada devrait le préoccuper. Finalement, ce qu'on comprend ici, et sa faible défense, si vous voulez, de l'industrie pétrolière et gazière canadienne ou albertaine, en fait, vient du fait que finalement, la défense de cette industrie-là est déphasée par rapport à son intérêt électoral. Et c'est ce qu'on constate, parce que si vous regardez, finalement, dans ses communications suite à l'annonce de M. Biden, il a dit qu'il était déçu de la décision du nouveau président américain, mais qu'il comprenait et qu'il même saluait l'engagement du président à lutter contre les changements climatiques.
Plaisir aux Albertains, ça?
Ben écoutez, c'est une défense assez molle, comparativement à celle qu'a fait Jason Kenney et Scott Moe, même le premier ministre de la Saskatchewan. Vous avez une défense assez molle, mais qu'on peut comprendre dans un certain sens, puisque l'électorat que cible le Parti libéral du Canada est pas tellement favorable aux différents projets d'oléoduc ou d'exportation des ressources pétrolières et gazières.
Mais où mettez-vous le Trans Mountain? Quand même, Trudeau a quand même mis, 4,5 milliards de dollars pour racheter le projet. C'est pas particulièrement vert comme transaction.
C'est vrai, mais ça rajoute d'autant plus au contexte. C'est-à-dire que, puisqu'il a déjà, si vous voulez, utilisé son capital politique sur le plan environnemental pour nationaliser cet oléoduc-là, et ça ne lui a pas donné de gains politiques dans l'Ouest canadien. Si vous êtes stratège politique pour le Parti libéral, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, est-ce qu'on supporte toujours et encore plus une industrie qui, finalement, ne nous rapporte pas de vote? Ou est-ce que plutôt, on jugerait pas à propos de... Sans dire qu'on va s'y opposer ouvertement et être contre les industries qui viennent de l'Ouest canadien, bien, on va les défendre mollement parce que ça nous ferait perdre des appuis, notamment au Québec. Et on le sait, si le Parti libéral du Canada veut former un prochain gouvernement majoritaire, il aura besoin d'un appui très fort dans l'Est du pays, incluant le Québec.
Et sans oublier les vaccins.
Oui.
Mais ça, c'est un autre volet du problème.
C'est un autre enjeu, oui.
Jean-François Thibault, je rappelle que vous êtes ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. On vous écoute ici tous les 4 ou 5 mardis du mois vers les 12h35. Keystone XL, je veux revenir à ça. C'est combien en chiffres? C'est combien d'emplois? C'est combien d'argent? C'est combien de pétrole? Ça va de où à où? Enfin, quelques données, pour savoir à quel point l'impact sur l'Alberta et sur le Canada peut être fort.
Oui. Bien, c'est un projet de pipeline qui devait faire 1947 km, qui devait transporter 830 000 barils de pétrole des sables pétrolifères de l'Alberta vers les raffineries du Golfe du Mexique. Donc, on parle
par
du Texas, la Louisiane.
Hein, pardon. Par jour? Par jour?
830 000 barils de pétrole des sables bitumineux. Oui, ça devait être par jour, me semble-t-il.
Oui.
Ou annuellement. Bon, ça, je vous... Mais donc...
Dans le temps, quoi.
Tout ça pour dire, oui, c'est vrai que c'est... Et donc, voyez-vous, c'est un projet qui devait créer 60 000 emplois.
Wow.
Et donc, 60 000 emplois, mais plutôt qu'en générer 60 000, comme le projet a été abandonné, finalement, TC Energy a plutôt licencié 1000 personnes la journée de l'annonce, finalement, du décret présidentiel de M. Joe Biden.
Oui.
Et donc... c'est un petit peu...
Pardonnez-moi, mais Keystone XL était quand même... Il y avait quand même des balises environnementales. On n'était pas en train d'envoyer des particules de tout ce que vous voudrez dans l'atmosphère. Il y avait quand même des garde-fous, non?
Oui, absolument. Mais c'est-à-dire que on ne construit pas des oléoducs aujourd'hui comme on en construisait dans les années 50, là, vous comprenez. C'était un oléoduc qui devait notamment utiliser des stations de pompage 100% électriques et 100% alimentées en énergie renouvelable dès 2030. Et donc, ça, ce que ça aurait permis, c'est des investissements de 1,7 milliard dans les énergies renouvelables. Également, il y avait 5 Premières Nations qui étaient partie prenante et qui étaient même, en fait, plutôt investisseurs là, dans le projet. Donc, vous voyez, on avait de la place dans l'actionnariat puis dans les retombées économiques pour les Premières Nations. On utilisait au maximum des technologies verte pour réduire l'empreinte environnementale de l'infrastructure. Alors donc, évidemment, on transporte du pétrole et on sait qu'on veut se distancier de plus en plus de cette forme d'énergie-là pour toutes sortes de raisons. Il n'en demeure pas moins que c'est une source d'énergie dont on aura besoin, notamment en termes pour des raisons d'application pétrochimique pour encore très longtemps. Et donc, c'était, si vous voulez, le meilleur moyen de le faire dans les circonstances. Maintenant, la décision qui a été prise, c'est de ne pas le faire de cette manière-là. Ce qui est ironique, c'est qu'à court terme, on transportera du pétrole par train.
Ah oui, alors qu'au Québec, ça passe plutôt moins bien à cause de lac mécantique. On peut comprendre.
Ben écoutez, les trains ne passeront pas ici pour aller jusque dans le golfe du Mexique.
Mais, ah non, évidemment, oui, pardonnez-moi,
mais,
oui.
Mais écoutez, c'est ça qui est ahurissant, c'est que si vous regardez aussi les États-Unis, ben en fait, le Canada exporte énormément de différentes matières, différents produits et services vers les États-Unis. Mais ses premières exportations vers les États-Unis, c'est le pétrole. Et on parle de 98,4 milliards de dollars américains par année pour 22% de nos exportations totales. Là. Donc, c'est quand même incroyable. Alors, c'est pas... Quand je vous disais tantôt qu'il ne s'agit pas simplement d'une perte pour l'Alberta, mais bien pour le Canada en entier, c'est de ça un peu dont ce que je voulais souligner. Là.
Pardonnez-moi, mais Thibault. On a un premier ministre Legault, mais on a un commentateur qui s'appelle Thibault, voilà. Je serai premier ministre du Canada, Dieu m'en garde, mais je le serai, mettons, et j'aurai un cœur... l'intérêt des différentes parties qui composent mon pays. Ça serait difficile, je comprends. Mais vous parlez d'une manne pétrolière qui est quand même assez bien harnachée avec des préoccupations environnementalistes. C'est quand même beaucoup d'argent. Dans le cas d'une transition énergétique, on garde encore du pétrole pour faire la transition, pour ensuite passer à tout ce qui est carboneutre. Je veux bien. Mais est-ce que les pouvoirs politiques, est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour essayer de renverser la perception populaire que c'est une énergie dégueulasse? J'imagine que Stephen Harper était pro-pétrole, non?
Oui, absolument. Ben, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est passé du gouvernement canadien le plus ouvertement favorable à l'industrie pétrolière et gazière à celui qui est probablement le plus hostile dans les faits. Alors, comment dire? C'est quelque chose que... En fait, Stephen Harper a été au pouvoir pendant 9 ans, presque 10 ans en fait. Ce qui est incroyable de constater, c'est à quel point les mentalités n'ont pas changé en ce qui concerne l'industrie pétrolière et gazière. Me semble-t-il qu'il y aurait eu un contexte pour essayer de convaincre, si on veut, une majorité de Canadiens d'un océan à l'autre que cette industrie-là n'est pas une industrie locale qui seulement bénéficie à l'Alberta, mais plutôt une industrie nationale et qui devrait figurer parmi les préoccupations nationales canadiennes. Et si vous voulez, ce que je constate avec le débat qui tourne autour des sables pétrolifères et l'industrie de l'énergie plus largement, c'est justement ça, c'est que l'industrie de l'énergie n'est pas perçue comme étant une industrie canadienne et qui devrait figurer parmi les grands intérêts, si vous voulez, nationaux que l'on défend sur la scène internationale. Et donc voilà, c'est-à-dire forcément, puisque ça ne fait pas partie, si vous voulez, des choses auxquelles tous les Canadiens se rattachent et croient bon de défendre, bien ce que ça fait en sorte, c'est qu'il n'y a que les gens de l'Ouest canadien qui finalement la défendent corps et âme lorsqu'elle est attaquée, lorsqu'elle est mise à mal.
Il nous reste 5 minutes, Jean-François Thibault. Est-ce que ça veut dire ça va dans le sens de cette vision de soi-même des Canadiens d'une puissance petite moyenne, morale, jolie, gentille, tolérante, ouverte, qui aime les oiseaux, qui aime l'environnement, qui aime... Est-ce qu'on revient dans cette espèce de mythologie? Est-ce que cette sensibilité de l'Ouest, où le pétrole est très important, On est carrément dans deux visions d'un pays complètement différent, dans deux visions presque morales. Le pétrole est immoral, l'environnement est moral. J'ai l'impression qu'on est presque dans un affrontement, un face-à-face plutôt, presque, je dirais pas religieux, mais philosophique ou métaphysique.
Oui, ben vous avez raison. Très certainement, et je pense que le Québec, là-dedans, qui représente quand même 23% de la population du Canada, si je ne m'abuse, pèse lourd dans la balance. C'est-à-dire que vous avez raison de mentionner qu'il y a une vision très... une vision morale, si vous voulez, ou à tout le moins une éthique de l'environnement qui finalement fait en sorte qu'on... On est dans un registre, à tout le moins, de la moralité, comme vous le dites, ou de la philosophie. Par contre, moi, ce que je constate, en fait, c'est que au Canada, le Canada n'est peut-être pas une puissance militaire, une puissance économique sur la scène internationale. Donc, on n'est pas une puissance militaire, on n'est pas une puissance... On a peut-être été une puissance diplomatique, jadis, encore là. Bref, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais on est quand même un pays où il fait bon vivre et où, finalement, le niveau de vie des gens sur le plan matériel est bon. Et nous avons une relative quiétude, c'est-à-dire que nous sommes un pays avec beaucoup moins de violence, beaucoup moins... Vous regardez aux États-Unis le nombre de cas, si vous voulez, de violence, que ce soit les tueries dans les écoles,
ah oui,
que ce soit la criminalité, etc. Au Canada, si vous me permettez l'expression, on a la paix. On a la
un peu moins à Toronto, hein? Un peu moins à Toronto, mais ça, c'est une parenthèse.
Oui, écoutez, vous avez raison de le mentionner, mais force est de constater que la psyché canadienne ou l'idée du Canada s'est construite autour de compromis, parfois un peu beige, mais on est quand même un pays qui a toujours misé sur l'ordre, le bon gouvernement et si vous voulez, il a quand même une certaine forme de quiétude et de stabilité.
Oui.
Et de voir finalement que nous troquons tranquillement une vision, si vous voulez, une vision de paix et de bien-être matériel pour une espèce de récit compensatoire, environnementaliste et très moralisateur. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet de ça. Je trouve que c'est quelque chose... Je me dis, c'est peut-être intuitif bien davantage que soutenu par...
Des données probantes.
Oui, voilà, mais c'est-à-dire que je ressens que nous sommes probablement en train de troquer une quiétude, une paix, pour un rêve, et j'espère que nous ne nous réveillerons pas un beau matin en ayant perdu quelque chose qui était précieux.
En deux minutes, Jean-François Thibault, bon, l'Alberta aura moins d'entrées d'argent, même si le pétrole, dans les dernières heures, augmente à ses niveaux de pré-pandémie, le prix du baril. Mais bon, sa capacité fiscale va diminuer. La péréquation qu'elle paye au fédéral, qui en envoie beaucoup au Québec, va diminuer. Peut-être qu'elle va devenir une province réceptrice ou bénéficiaire plutôt que excédentaire. Avec tout ça, on espère au moins que la transition énergétique va arriver à pallier ce manque de revenus lié au pétrole.
C'est-à-dire que, oui, certainement, écoutez, je travaille moi-même comme ingénieur dans l'industrie des énergies renouvelables. Je peux vous témoigner finalement que c'est un domaine qui est en pleine effervescence, et notamment en Alberta, où il se construit nombre de parcs d'énergie renouvelable. Alors, il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. N'empêche, entre, si vous voulez, un monde rêvé où le Canada sera 100% alimenté à l'énergie renouvelable et le Canada actuel, je pense qu'il y a quand même, il va se passer quelques années pour ainsi dire. Alors, j'encourage en particulier les jeunes qui nous écoutent à envisager des carrières dans le domaine du génie, dans le domaine des énergies renouvelables, très certainement. Cela étant dit, je crois qu'il ne sert à rien, si vous voulez, de tirer davantage sur la fleur pour la faire pousser plus vite. Je pense que nous irons vers un Canada plus vert et un monde, je l'espère, qui sera plus vert et moins émissif. Par contre, entre les deux, il s'écoulera du temps et peut-être serait-ce plus sage finalement de continuer, si vous voulez, à bénéficier d'une industrie qui en fait nous permet de nous enrichir et qui répond quand même à un réel besoin à l'heure actuelle, plutôt que de la laisser tomber si vous voulez faire du signalement de vertu là, à l'échelle internationale.
En 10 secondes, Jean-François Thibault, est-ce qu'on peut vous lire quelque part sur Internet?
Vous pouvez aller lire mes articles sur via mon compte LinkedIn. Je suis disponible sur LinkedIn. Vous pouvez également aller sur mon nouveau site internet parole-énergétique.québec. C'est un site que je viens tout juste de lancer où on retrouve l'ensemble de ma revue de presse puis d'autres
d'autres. Merveilleux.
Oui,
merci beaucoup, Jean-François Thibault. Vous êtes ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. On vous retrouve dans 4-5 mardis. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À venir, c'est la fin de l'émission, voilà. Et demain, on parlera de l'Université Laurentienne face à ses créditeurs et de la semaine politique québécoise et canadienne. À Daniel Fortin à la régie, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous demain à la même heure.